Et maintenant, je vous propose un autre très bref entretien qui va surprendre sans doute plusieurs d'entre vous. Il est très inattendu, mais il est dicté par une certaine actualité scientifique. Dans le prolongement de l'entretien psychologique sur la structure de la personnalité que vous venez d'entendre, je voudrais aborder très franchement une question qui trouble de nombreux chrétiens depuis quelques années, surtout en Amérique du Nord. Ils lisent dans les revues de vulgarisation scientifique des propos que je résumerai ainsi. Les yogis de l'Inde, les bouddhistes d'Asie recherchent, à grand renfort de techniques, de méditation, d'intériorité, de méthodes de prière, à grand renfort d'ascèse aussi, une expérience intérieure, appelée, suivant les religions, samadhi, nirvana. Et ils trouvent dans cette expérience une extraordinaire plénitude, disent-ils, un bonheur dont aucune autre expérience n'approche. Or, depuis quelques années, il a été mis au point des techniques psychologiques et aussi un appareillage qui permettent de faire l'expérience de cette plénitude intérieure sans avoir à se livrer pendant de longues années à la pratique de méditation, de techniques d'intériorité complexes, sans avoir non plus à pratiquer une rigoureuse ascèse comme chez les yogis ou les pères du désert, sans avoir non plus à consacrer quotidiennement de longues heures à la prière. En lisant ces articles, et qui se multiplient, les chrétiens sont troublés. Ils se demandent, mais cette expérience de Dieu à laquelle nous chrétiens tendons par la pratique de l'oraison, ne serait-elle donc pas autre chose qu'un état de conscience s'expliquant parfaitement sur un plan naturel grâce au progrès de la psychophysiologie? Alors il faut absolument y voir clair. C'est pourquoi, tour à tour, je vais vous parler, premièrement, des ondes cérébrales, deuxièmement, du rapport entre les ondes cérébrales et les techniques de méditation et d'intériorité, troisièmement, du rapport entre les ondes cérébrales et la prière chrétienne. Il va sans dire que, dans les limites de temps qui nous sont imposées, il me faudra être très bref. On vous présente tout de suite une diapositive. Première partie, les ondes cérébrales. Vers 1920, l'Allemand Hans Berger découvrait les ondes cérébrales. Et depuis lors, bien des recherches et des progrès ont été faits pour enregistrer ces ondes et pour les analyser grâce à l'électroencéphalogramme. Et il a été observé que les ondes cérébrales correspondent à des états de conscience variés. Les ondes cérébrales correspondent à des états de conscience variés. C'est ainsi que les ondes cérébrales de l'homme éveillé sont différentes des ondes cérébrales de l'homme qui dort. Et on s'est très spécialement intéressé à un type d'onde qu'on appelle les ondes alpha, dont je vous parlerai bientôt. Je vais brièvement vous présenter chacun de ces types d'ondes cérébrales dont vous voyez le tracé sur la diapositive. On a désigné ces ondes par les lettres de l'alphabet grec que vous voyez inscrites sur la marge de gauche de la diapositive, alpha, bêta, theta, delta. À un premier regard, vous constatez la différence des tracés. C'est visible. Vous constatez notamment que pour une même longueur de tracé, la fréquence, autrement dit le nombre d'oscillations, est plus ou moins grand. Bien plus grand dans le tracé d'en haut. Le nombre des oscillations est bien plus grand dans le tracé bêta et bien moins grand dans le tracé du bas de la diapositive. Les fréquences de ces ondes se mesurent en cycles secondes. Mais ce n'est pas seulement la fréquence, c'est aussi l'amplitude qui mérite attention. Comparez par exemple le premier tracé en haut et le deuxième en dessous. Le premier nous présente des ondes de faible amplitude, le second d'amplitude beaucoup plus grande. L'amplitude est traduite sur le diagramme par la hauteur des oscillations. Voici donc en quelques mots la présentation de chacune de ces ondes, de haut en bas. Les ondes bêta, les premières, ce sont les ondes qu'émet le cerveau quand il se livre à un travail exigeant attention. La fréquence des ondes bêta est rapide, entre 13 et 26 cycles secondes. L'amplitude, comme vous le voyez, est très faible, ce qui rend d'ailleurs le tracé difficile à lire. Le second tracé présente les ondes alpha. La fréquence a baissé. Elle était de 13 à 26 cycles secondes pour les ondes bêta. Elle est tombée entre 8 et 13 cycles secondes pour les ondes alpha. Ces ondes alpha sont caractéristiques d'un état de détente physique et de calme cérébral, en même temps que de vigilance, parfois hyperlucide. Troisième train d'ondes, les ondes θ, entre 4 et 8 cycles secondes. Elles apparaissent souvent mélangées aux ondes alpha, mais lorsqu'elles deviennent prédominantes, elles marquent l'approche du sommeil. Dans cet état de somnolence peut surgir toute une imagerie qu'on appelle hypnagogique, laquelle imagerie intéresse beaucoup psychologues et psychiatres. Comme vous le voyez, le tracé est beaucoup plus irrégulier, du fait que le contrôle mental est relâché dans cet état de somnolence. Quatrième, les ondes delta, au plus bas de la diapositive, ondes lentes, observées lors du sommeil profond, mais aussi dans certaines maladies et aux approches de la mort, amplitude très grande, tracé irrégulier, fréquence de 1 à 4 cycles secondes. C'était la première partie de l'entretien sur les ondes cérébrales. Deuxième partie, quel est le rapport entre les ondes cérébrales et l'état de recueillement, de vide mental auquel accèdent les orientaux par leurs différentes techniques de méditation? Attention, quand nous parlons de méditation orientale, il ne s'agit pas de la méditation telle que nous, chrétiens, nous l'entendons, à savoir d'une réflexion. Il s'agit au contraire d'une recherche du silence. Des chercheurs à San Francisco, à Tokyo d'abord, il y a quelques années, et depuis en beaucoup d'autres lieux, ont eu l'idée d'enregistrer en laboratoire et d'analyser les ondes émises par des yogis, des bouddhistes, au cours de leur méditation. Et ils ont découvert que ces hommes émettaient alors des ondes alpha, les deuxièmes. Ondes alpha de grande qualité, présentant des caractéristiques remarquables de permanence, de régularité et d'amplitude, comme vous le voyez. C'est un tel tracé d'ondes alpha que vous présente la projection, le deuxième tracé en partant du haut. De plus, les chercheurs ont constaté avec un grand intérêt que la production d'ondes alpha avait des résultats biologiques très notables aux différents niveaux respiratoires, cardiovasculaires, humoraux. Ainsi, ils ont vérifié scientifiquement ce qui avait été observé empiriquement, à savoir qu'il existe un rapport étroit entre la méditation orientale et la santé. Alors la question s'est posée, mais ne pourrait-on pas favoriser la production de ces ondes alpha si précieuses, si bénéfiques, sans recourir aux pratiques yogiques ou bouddhiques qui sont difficiles, qui sont longues, qui exigent une ascèse terrible? Et des mouvements dont le succès est grand ont mis au point des techniques d'intériorité qui permettent d'accéder rapidement, disent-ils, à un état de silence et de vide intérieur. Vous me dispenserez de citer les mouvements dont je parle. Chose plus curieuse, on a mis au point des appareils à biofeedback, la société de consommation ne perd pas le nord, permettant d'accéder rapidement et sûrement, dit-on, il faut voir les fiches publicitaires, à ces états de conscience appelés recueillement, vide, silence intérieur, et les publicités précisent ce que, en Inde, ce que les mystiques chrétiens mettent 20 ans à obtenir, vous l'obtiendrez en quelques jours. Mais de fait, l'électroencéphalogramme donne approximativement le même tracé d'onde alpha pour les grands ascètes d'Orient et pour les occidentaux qui utilisent les procédés qu'ils ont inventés pour favoriser la production d'onde alpha. Mais cela me paraît de la supercherie de penser que si l'électroencéphalogramme a le même tracé, la vie intérieure de ces grands ascètes est identique à la vie intérieure de ces occidentaux qui, dans leur fauteuil, avec des électrodes sur la tête, essayent de produire des ondes alpha. Au plan phénoménal, on fait la même observation, mais allez donc chercher au plan intérieur ce qui se passe. Si c'était possible, on s'apercevrait qu'il s'agit d'expériences toutes différentes. Enfin, troisième partie, onde cérébrale et prière chrétienne. Que pouvons-nous répondre aux chrétiens qui sont au courant de ces recherches et qui se posent des questions, parfois avec anxiété? Première question rencontrée. L'expérience que nous chrétiens faisons à l'horizon et l'heureux résultat de cette expérience, jusqu'à présent, on l'attribue à Dieu, mais ne s'expliquerait-il pas tout simplement par des considérations neurophysiologiques et psychologiques? À quoi je réponds? Quand dans la pratique de l'oraison chrétienne, le chrétien parvient à un certain état de recueillement, à un silence intérieur, c'est bien évident qu'on observera des effets semblables à ceux qui sont obtenus grâce aux techniques d'intériorité. Mais la prière est aussi... La prière est d'abord tout autre chose que le silence intérieur, que la production d'ondes alpha. C'est la recherche et la rencontre du Dieu vivant, et cela ne se mesure pas. À ce sujet-là, l'électroencéphalogramme n'a rien à dire. Seconde question. Les chrétiens se demandent, ne gagnerait-on pas à s'inspirer des techniques d'intériorité pour progresser dans la pratique de l'oraison? Réponse. Depuis toujours, beaucoup de maîtres à prier chrétiens ont préconisé des méthodes de recueillement qui favorisent la descente en soi-même, en son cœur profond, ce cœur dont je parlais dans mon entretien précédent. Mais tous ont pris soin de nous dire « ne confondez pas moyens et fins ». Une chose est le recueillement, une autre chose, la relation personnelle avec Dieu. C'est vrai, la relation personnelle peut être favorisée par le recueillement. Mais le recueillement sans relation personnelle à Dieu n'a rien à voir avec la prière. La prière est toute autre chose. La prière est rencontre d'amour de l'homme avec Dieu, libre initiative de deux personnes, et l'amour ne s'acquiert ni ne se développe par des techniques. Je dis donc que les méthodes de recueillement peuvent être utiles. Mais je tiens à préciser avec beaucoup de vigueur qu'elles ne se valent pas toutes. Celles qui ont été élaborées par les chrétiens sont toutes ordonnées à la rencontre de Dieu. D'autres, d'origine orientale, risquent fort, parfois, comme je le constate, d'amener le chrétien qui s'y adonne, non pas à découvrir Dieu présent en lui-même, mais à se rendre prisonnier de lui-même. Terrible danger. Saint Augustin le signalait déjà. Entre en toi pour trouver celui qui habite en toi, mais prends garde de ne trouver que toi-même et de t'enfermer en toi-même. Et pour éviter ce danger, je vous invite à retenir la prière que je vous ai déjà citée. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi te trouver dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je veux demeurer auprès de toi dans le fond de mon cœur.